Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et je souhaite que vous passiez avec nous un très agréable moment.
Alors allons-y.
Let's do it.
I have good news for you.
C'est l'heure de la Formule Express.
J'adore ça.
Ah bon?
On fait pas chier.
On essaye? Allez.
Allô, passez-moi ta brochure, s'il vous plaît, de la part de Jean Cordier. Pierre? J'en tiens.
Comment est-il?
Un champion du monde.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 39e Formule Express de retour à l'écran. Une formule consacrée au plus grand succès de la carrière cinématographique de Francis Weber, classé numéro 2 du box-office de l'année 1998 derrière l'inatteignable Titanic de James Cameron avec plus de 9 millions d'entrées et récompensé par 3 Césars. Ce film c'est bien sûr le dîner de cons avec en tête d'affiche Jacques Villeray, Thierry Lhermitte, Francis Huster, Catherine Fro, Alexandra Vandernoot et Daniel Prévost. Un énorme carton qui fit suite au grand succès de la pièce de théâtre créée en 1993 par ce même Francis Weber après une expérience américaine un peu douloureuse. Durant cet épisode, je vais vous raconter la longue et riche histoire de cette comédie intemporelle, désormais culte. Avant cela, et pour tous ceux qui seraient passés à côté, le dîner de cons ça raconte quoi ? Chaque mercredi, Pierre Brochand, un grand éditeur parisien, organise avec ses amis ce qu'ils appellent un dîner de cons. Le principe, chacun des invités amène avec lui une personne qu'il considère comme un con. À la fin de la soirée, le meilleur con reçoit une palme. Mais cette fois-ci, tout ne va pas se passer comme prévu pour Pierre Brochand, qui va avoir affaire à un sacré personnage.
Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con.
C'est pas vrai, tu l'as invité ici ?
Je voulais l'étudier un peu avant de l'emmener dîner. Tu vas voir, il paraît qu'il est fabuleux.
À demain, monsieur Leblanc ! Et voilà, on a les droits.
C'est vous qui deviez dîner avec lui ce soir ?
Oui, comment le savez-vous ? Il vous a parlé de moi.
Oui, mais même sans ça, je vous aurais reconnu.
Pour revenir aux origines du dîner de cons, il faut repartir en l'année 1992. Francis Weber, consacré champion du box-office grâce aux cartons successifs de La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs, a traversé l'Atlantique et poursuit sa belle carrière à Hollywood depuis quelques années déjà.
J'ai fait 7 millions d'entrées avec La Chèvre, et pas loin de 5 millions et de 5 millions avec Les Fugitifs et Les Compères. Et vous vous dites, ça va, j'ai atteint mon sommet ou mon pic, et maintenant je peux plus rien faire de mieux. Sur le plan, évidemment, commercial. Hein. Et puis, je rencontre Jeffrey Katzenberg, qui était le patron de la production de Disney, pendant le Festival de Cannes, où j'étais juré. Et ce petit homme s'approche, c'est un petit bonhomme comme ça, qui me dit, on aime bien ce que vous faites chez nous là-bas à Hollywood. Est-ce que vous voulez venir chez moi à Disney pour qu'on travaille ensemble ? Et je le regarde incrédule et je dis, mais qu'est-ce que je ferais, moi ? Est-ce que vous voulez qu'un Français fasse ? Il dit, venez, on vous donne un bureau chez nous et puis on trouvera quelque chose à vous faire faire. Et c'est là que je prends la décision d'abandonner le cinéma français, ce qui était idiot sans doute, pour faire le championnat du monde qui fatalement est en Amérique. Parce que les grandes comédies qui me restaient dans la tête, ben c'est Lou Beach, c'est Billy Wilder, c'est ces gens-là, vous voyez. Et j'arrive là-bas, en laissant ma famille à Paris. Et là, ben, il me donne un bureau superbe. Hein, j'étais vraiment bien traité. Et puis, je dis, oui, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et je deviens consultant sur scénario américain.
Après cette mission alimentaire et ayant obtenu la confiance du studio, Weber signe le remake de ses propres Fugitifs avec Nick Nolte et Martin Short qui rencontrent une nouvelle fois un beau succès.
Et puis, je suis passé sur un autre film américain avec Matthew Broderick qui a été un bide atroce. Et on m'avait prévenu. Et c'était la première fois que j'ai tourné un scénario qui n'était pas de moi. Donc, sans le savoir, je n'étais plus en garde derrière ce que j'écrivais, mais derrière un script qui finalement était assez médiocre.
Mis au banc de Hollywood à cause de cet échec, Weber décide tout de même de rester aux États-Unis pour écrire non pas un nouveau film, mais une pièce de théâtre. Après 24 années consacrées au 7e art, le réalisateur décide donc de revenir à son premier amour pour se refaire la cerise. C'est après avoir entendu la rumeur de dîner organisé par de riches hommes sans scrupules, qui invitaient de soi-disant abrutis pour se moquer d'eux, que Weber trouve rapidement l'inspiration et prend un premier acte en moins de 2 mois.
J'avais entendu parler des dîners de cons, parce que ça existait. Mais je lui serais intéressant d'avoir un type qui est méchant comme ça, qui appartient à un milieu un peu sophistiqué, qui se trouve un con comme ça, bien juteux, et puis il l'invite. Et au même moment, il a les problèmes qu'on sait, c'est-à-dire qu'il est immobilisé, Et puis il a une peine de cœur. Qu'est-ce qu'il a comme unique confident ? Le type qu'il a invité pour sa connerie. Et ça me paraissait être une situation intéressante.
De passage à Paris, il rencontre Alain Poiret, l'un des grands producteurs de Gaumont, à qui il lit le premier acte de sa future pièce. Poiret se montre très intéressé, mais Weber lui explique que c'est inadaptable pour le cinéma et que c'est prendre beaucoup de risques de penser au film dès maintenant. Mais le producteur insiste tellement qu'il finit par convaincre le metteur en scène de signer un contrat pour la future adaptation de la pièce au cinéma. Weber rentre alors à Los Angeles pour finir l'écriture de sa pièce. Éternel insatisfait, il peine à croire que cette pièce aura du succès et encore moins à penser au film qu'il pourra en faire. Sans grande conviction, il l'envoie tout de même à Jean-Louis Lévy, son ancien agent devenu producteur des théâtres. Ce dernier la transmet à Jean-Paul Belmondo, alors directeur du Théâtre des Variétés situé sur les Grands Boulevards à Paris. La star ne tarde pas à donner une réponse enthousiaste et programme la pièce dès la rentrée suivante. Weber doit s'activer pour former son casting et pense immédiatement à Villeray pour incarner le con. Mais une vieille rancune va vite ressurgir.
Jacques Villeray, oui, on a voulu parce que je lui avais téléphoné, comme je vous l'ai raconté, pour qu'il joue la chèvre. Et puis Lino Ventura n'en a pas voulu. Il a fallu le décommander, il a été atrocement malheureux. Et plusieurs années après, je veux me dédouaner par rapport à lui, parce que je me sentais quand même un peu coupable. Hein. Et je lui fais envoyer par mon agent le dîner de con. Il a attendu au moins un mois et demi. C'est seulement après m'avoir puni pendant un mois et demi qu'il a accepté. Et quel cadeau alors. Mais c'est fantastique quand vous trouvez votre acteur. Je l'avais trouvé une première fois avec Pierre Richard, mais il y a un problème dans nos métiers, c'est qu'on vieillit tout bêtement, vous voyez. Pierre était un comique physique. C'est un acrobate, Pierre. Hein. Quand il a commencé à prendre un peu de gravité, un peu de sérieux, il a regretté qu'on fasse pas de comédie ensemble, mais les rôles ne lui convenaient plus. Et Villeray, il était le comique que vous voyez. Lui, il pouvait tenir plus longtemps dans les mêmes rôles parce qu'il a déjà un physique extraordinaire de clown. Hein.
On va vous tirer de là, monsieur Brochamp. Ne vous inquiétez pas, on va vous tirer de là. Vous êtes entre de bonnes mains, là. Allô ? Oui, je voulais parler au docteur Archambault, s'il vous plaît. J'appelle de la part de monsieur Pierre Brochamp. Oh, excusez-moi, je me suis trompé de numéro.
Il est prodigieux dans son travail. C'est-à-dire qu'il a noté les pièces, les scénarios, et c'était étonnant de voir l'intelligence de ce qu'il écrivait. Il soulignait ce qu'il fallait monter, il soulignait d'une autre couleur là où il fallait descendre. C'était un génie aussi.
Après avoir tenté de convaincre Pierre Arditi pour incarner Pierre Brochamp, Weber choisit finalement Claude Brasseur, immense acteur de théâtre et de cinéma qui avait notamment joué le père de Sophie Marceau dans La Boum. Ce même Brasseur qui confia avoir lui-même été invité une fois sans le savoir à un véritable dîner de cons. Sa très grande passion pour le Paris-Dakar, auquel il avait participé quelques temps auparavant, avait en effet motivé ses soi-disant amis à venir en parler pour finalement se moquer de lui.
Il ne peut plus bouger, il est affalé sur le plancher comme un vieux sac. C'est pathétique.
Mais à qui il parle, d'abord ? Mais à qui vous parlez, bordel ?
Excusez-moi, qui est à l'appareil, là ?
Pour compléter le casting, Weber fait appel à des habitués des planches comme Michel Robbe, Gérard Hernandez et Philippe Brigot. Les répétitions s'avèrent difficiles. Pierre Mondy, à qui Weber a confié la mise en scène de sa pièce, doit gérer un Villeray constamment ivre et un Brasseur en proie lui aussi à quelques addictions.
Je me rappelle, la première lecture a été difficile. Parce que Villeray est un génie, mais il tapait un peu trop sur la bouteille, vous voyez. Et là, je ne sais pas, il était intimidé, et il a énormément bu avant de venir. Et il y avait Belmondo, Pierre Mondy qui faisait cette première mise en scène de ma pièce, après c'est moi qui l'ai faite. Et il arrive. Et alors, hébété, littéralement. Et il lisait les répliques de Brasseur, qui était censé jouer son partenaire, son protagoniste. Et il lisait comme ça. Et j'ai écrit à Pierre, c'est dur. Il m'a répondu sur un petit bout de papier, oui. Et après, on a retrouvé le génie de Villeray.
Après moult péripéties et beaucoup de sueur froide, tout finit par rentrer dans l'ordre pour la première qui a lieu le 18 septembre 1993 devant tout le gratin parisien. La pièce est un triomphe et sera jouée pendant près de 3 ans au Théâtre des Variétés. La question de l'adaptation du Dîner de cons au cinéma se pose logiquement très vite. Mais Francis Weber a d'autres aspirations et demande à Alain Poiret, le producteur de La Gaumont, de patienter un peu. Le réalisateur a en effet envie de refaire une comédie exotique dans la droite lignée de La Chèvre. Il se lance alors dans la mise en scène du Jaguar, un nouveau buddy movie avec Patrick Bruel et Jean Reno en tête d'affiche.
Mais qu'est-ce que tu fous là encore ?
Je lui demande pourquoi il vous a dessiné des peintures rituelles sur le visage.
Et ben quoi ?
Il vous réclame parce qu'il a établi avec vous une relation qui nous échappe, une relation qui ressort de la magie indienne.
Mais quelle magie indienne ? J'ai ramassé dans la rue un petit bonhomme qui crevait de froid, y a rien de magique là-dedans.
Il vous demande d'aller chercher son âme dans la forêt.
Pardon ?
Sorti le 9 octobre 1996, le Jaguar cumule près de 2,5 millions d'entrées. Un semi-échec pour Weber, habitué à faire des scores deux fois supérieurs. La Gaumont qui a produit le Jaguar est également déçue du résultat, et pousse alors le réalisateur à lancer enfin l'adaptation de son Dîner de cons.
C'est pas facile d'adapter, parce que vous aviez fait l'adaptation de La Cage aux Folles pour le cinéma, et vous disiez vous-même d'ailleurs que le film était moins drôle que la pièce. Oui. C'est difficile, non ?
C'est-à-dire que dans le cas de La Cage aux Folles, c'était difficile déjà parce qu'ils ont changé l'acteur.
Ouais.
Ils ont pris Tognazzi, qui était italien et qui a joué en italien, en face de Cerro en français.
Ah ouais.
Il avait signé le contrat pour jouer en français, Tognazzi. Et quand il a vu que Cerro était tellement bon, il a dit « je joue en italien ». Il a eu la trouille.
Ah oui,
hein. Ce qui fait que ça a dérythmé le film. Et puis en plus, la pièce était une pièce d'acteur, La Cage aux Folles. Ce qui fait qu'ils faisaient des traditions tous les soirs.
Oui.
Et la pièce pouvait avoir une demi-heure de plus certains soirs, vous voyez.
Oui.
Donc le film, qui était obligé de canaliser et de contraindre tout ça, était à mon avis moins drôle que la pièce.
Mais malgré cette expérience frustrante, Weber décide lui aussi de prendre le risque de changer la grande majorité des acteurs présents dans la pièce, ne conservant que Jacques Villeray dans le rôle du con.
Ah, pourquoi vous n'avez pas pris Brasseur ? Il est trop vieux ?
Écoutez, c'est cruellement dit ce que vous venez de dire, mais en fait, il faut que l'acteur... Le cinéma est plus réaliste que le théâtre.
Mm-hmm.
On peut imaginer effectivement Sarah Bernhardt jouant l'aiglon à 60 ans.
Ouais.
Mais là, un homme de la génération de Brasseur qui était épatant au théâtre,
ouais.
hein, qui joue au Dîner de cons à la soixantaine...
Ouais, vous y croyez pas.
Ah, pas beaucoup.
Et en plus, il y avait quelque chose qui collait pas entre Brasseur et Villeray, c'est qu'ils étaient tous les deux un peu empâtés et un peu calvicieux, c'est-à-dire ils perdaient leurs cheveux tous les deux. Ils se ressemblaient presque. Ce qui fait que quand j'ai mis l'ermite en face de Villeray, vous aviez un type sur lequel l'effet s'était vraiment penché. Ses yeux, ce physique, cette taille. Et en face, Villeray ressemblait à E.T. Il était globuleux comme ça, il était touchant, et c'était plus fort.
Philippe Brigot, qui jouait le professeur Archambault au théâtre, fait également les frais du choix de Weber.
Je sais pas la vraie raison, mais c'est comme ça en France, probablement parce que c'est comme ça aux États-Unis. On reprend rarement dans les films les acteurs qui ont joué, disons, les rôles secondaires dans les pièces. On reprend parfois la vedette, et encore pas toujours, mais donc, aussi bien Hernandez que moi, on savait qu'on ne ferait pas la tournée.
La pièce durant près de 2h30, Weber remanie également tout son texte pour qu'il colle au mieux au rythme du grand écran et pour éviter le piège du théâtre filmé soporifique.
C'est probablement plus difficile parce qu'il n'y a pas le dialogue entre le public et l'acteur, si vous voulez, parce qu'il y a une connivence qui s'établit si la pièce plaît au public entre l'acteur et le public. Et là, il lui suffit de faire un geste, de regarder d'une certaine manière pour que le public reparte dans le rire. Alors qu'au cinéma, il y a quand même une distance entre l'écran et les acteurs. Entre l'écran et les spectateurs, pardon, et il faut donc que la situation soit plus ficelée, plus forte peut-être, pour arriver à faire rire.
Weber bénéficie également d'un budget confortable de 82 millions de francs, soit près de 13 millions d'euros, permettant la construction d'un appartement XXL pour aérer un maximum son film.
C'est Tissandier, le décorateur Hugues Tissandier, qui a voulu, et il a eu raison, donner à l'appartement quelque chose de, entre guillemets, gigantesque pour enlever la claustro du théâtre, vous voyez. Donc j'ai effectivement le luxe d'avoir une tour Eiffel merveilleuse.
C'est fantastique, parce que moi on a l'impression de ces appartements du Champ de Mars, là avec la tour Eiffel qu'on pourrait toucher du balcon.
Ouais. Ouais. Et puis c'est la première fois que je filme en scope, ce qui est bizarre, parce qu'avant j'ai filmé par exemple le Jaguar, où il y a des paysages amazoniens merveilleux, mais j'étais en 1,85. Et là justement, parce que le scope c'est le format idéal du cinéma, j'ai fait du scope pour la première fois dans probablement mon film le plus intimiste.
Oui, c'est vrai.
Et de voir le visage de Villeray sur un écran de 22 mètres, j'ai découvert que c'était des paysages extraordinaires, les visages. Un gros plan en scope d'un acteur, c'est aussi intéressant, sinon plus, que les chutes du Niagara.
On admire leur talent de très près.
Ah oui,
les 82 millions, non, sérieusement.
Le temps.
Le temps, d'accord.
Le temps, c'est très cher au cinéma, le temps.
Ouais.
Et comme je voulais donner un rythme au film pour le déthéâtraliser, on a beaucoup travaillé au niveau des prises. Il m'est arrivé de faire quelquefois 30 prises avec les acteurs.
Le tournage s'avère en effet très difficile pour certains, comme Thierry Lhermitte qui découvre avec douleur la direction d'acteur selon Weber.
Ah oui, c'était dur, oui. Oui, parce que
Francis Weber, il veut entendre ce qu'il a écrit.
Ah oui. Voilà. Ah oui, il n'est pas commode avec les acteurs.
Eh non. Donc, moi, je n'étais pas habitué à ça. Mais honnêtement, ça m'a beaucoup appris, en fait. J'ai beaucoup souffert, mais ça m'a beaucoup appris. Mais c'était quoi dans la rythmique, en fait, de non, mais c'est, vous demander c'est, oui, c'est la musique du. Ouais. C'est la musique, c'est pas que la musique, c'est plus intelligent que ça, c'est le sens. Ouais. Il veut le sens qu'il a écrit. Et le sens, il sort entre autres par la musique. Et il veut entendre ça et pas un truc qui vous arrange parce que vous savez bien le faire et voilà. C'est
très directif.
Ouais.
Malgré l'exigence devenue légendaire de Weber, le tournage se déroule dans une très bonne ambiance. Autour du duo Villeray-Lermite, le reste du casting composé de Francis Huster, Alexandra Vandernoot, Catherine Fraud et Daniel Prévost s'en donne à cœur joie.
Dans le cul, l'OM, dans le cul, Lilith, dans le cul.
Va te faire foutre, tiens.
Toi aussi, va te faire foutre. Oh, mais quel connard, ce type. Oh, allez, l'OM, eh. Oh, chiotte, l'OM. Oh, chiotte, l'OM. Oh, chiotte, l'OM. Quel connard. Je le rappelle.
Ah, mais il est hors concours, celui-là.
C'est comme ça depuis une heure, ça n'arrête pas. C'est pas grave, je vous dis, je le rappelle, on s'engueule tout le temps, on s'adore. C'est un bout en train.
Le Dîner de cons sort dans les salles le 15 avril 1998 et c'est un véritable triomphe. Plus de 9 millions d'entrées pour ce qui sera le plus grand succès de Francis Weber au cinéma. Cette année-là, seul l'intouchable Titanic de James Cameron fera mieux, avec plus de 20 millions de tickets vendus. L'année suivante, le film remporte 3 Césars. Un pour la prestation de Daniel Prévost dans un second rôle, le second pour le scénario de Francis Weber, et le dernier pour Jacques Villeray en tant que meilleur acteur.
Le lauréat est c'est Jacques Villeray dans le Dîner de cons.
Ben, 2-3 pensées, une à César bien sûr, une à Louis Seignier avec qui j'ai appris beaucoup de choses, puis une à Nathalie qui me remet mon César. Et bien sûr une à Francis Weber aussi, sinon sans scénario il n'y a pas de beau rôle.
Après le triomphe du Dîner de cons au cinéma, la pièce sera remontée plusieurs fois avec toujours autant de succès, avec notamment le duo Chevalier et Las Palès, ou Danny Boone et Arthur.
Ce qui a paru évidemment au départ plus surprenant à tout le monde.
Y compris à moi d'ailleurs.
Oui.
Non, mais en fait, il y a deux choses à dire. La première, c'est qu'Arthur est extrêmement doué, parce qu'il n'avait jamais joué la comédie. Il fallait qu'il tienne le rôle le plus difficile dans ce genre de pièce, qui est le rôle du contre-champ de comédie. C'est le type qui est fort et qui doit démultiplier les effets du comique avec sa sincérité et sa force. Il s'en est pas mal tiré du tout. Le problème que j'ai eu, c'est que pendant la pièce, Danny Boone a eu Bienvenue chez les Ch'tis qui est sorti. Et tout à coup, à la Porte Saint-Martin, sont arrivés des quarts entiers de Ch'tis. Il aurait fallu débaptiser le théâtre et l'appeler les Bouffes du Nord. Ils arrivaient et ils criaient « Bilout, eh ?» dans la salle. Et je me disais, est-ce qu'il ne faut pas que j'appelle François Pignon François Bilout maintenant? Je ne sais plus où j'en étais.
Donc il était obligé de prendre l'accent Ch'tis
dans la pièce. Il prenait l'accent Ch'tis dans la pièce.
Ah oui.
Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom, c'était vraisemblable.
Donc c'était plus votre pièce.
C'était pas tout à fait ma pièce. C'était le Dîner de Ch'tis.
ans après sa sortie, le Dîner de cons est devenu, à l'instar de la trilogie réalisée par Weber avec Pierre Richard et Gérard Depardieu, un véritable classique de la comédie populaire française. Il suffit de voir les chiffres d'audience à chacune de ses diffusions à la télévision pour s'en convaincre. Le film n'a en effet pas pris une ride grâce à la plume que l'on peut aisément qualifier de brillante de Francis Weber.
Il s'appelle Juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste?
Oui.
Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu le temps comme ça.
Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con.
C'est la fin de cette Formule Express consacrée au Dîner de cons. On se retrouve très bientôt pour d'autres remises en lumière. En attendant, tous nos autres épisodes sont toujours disponibles à l'écoute sur notre site retouralecran.fr, sur YouTube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical. À très vite.
Averse, vieux con des neiges d'antan.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
C'est vrai que je ne vis qu'au cinéma.
Pour être aimé, il faut être aimable.
Vous voulez un chocolat?
C'était pas ma guerre.
Back and forth.
Force. Quelle est votre devise?
Je m'appelle Bond. James Bond.
Vous délirez totalement là.
C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
Vous êtes un mélancolique.
Mélancolique, mon cul.